C'est l'heure du documentaire et de notre dernier portrait de la semaine, celui d'un pied rouge. Ce terme ne relève d'aucune tribu indienne, c'est celui qui a été attribué à ceux qui, au lendemain de la guerre, se sont mis au service de l'Algérie indépendante. Français, espagnols, italiens, grecs, humanistes, chrétiens ou communistes, ils ont cru à cette cause en tant que médecins, instituteurs, artistes ou journalistes, voulant apaiser les dégâts du colonialisme ou rêvant de révolution mondiale. Catherine Simon leur a consacré un ouvrage, estimant en conclusion que leur expérience est tombée dans un trou de mémoire. Claire Zalamansky, loin du constat de la journaliste qui parle de gogo de l'histoire, d'échec complet ou de pathétique fiasco, voire d'illumination tiers-mondiste, a décidé de convoquer les amis de sa mère qui, comme elle à l'époque, voulaient donner savoir-faire et compétences à une Algérie exsangue.
Linda, ma nounou espagnole, et qui nous fait de l'empanada galicienne.
Des tomates et des poivrons. En espagnol, ça se dit des tomates et pimientos.
Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma mère, et c'est toute l'Espagne qui m'ouvre la porte.
Et maman, elle est où?
Elle est là-bas. Está en el comedor.
Ma mère est un pied rouge. Pas une peau rouge, non. Un pied rouge, en Algérie.
Ça va?
Oui.
Tu n'as rien ramené d'Algérie, maman. Rien? Je veux dire, aucun objet. Ou presque. Ni photos, surtout. Tu n'as rien ramené d'Algérie, maman, sauf moi, dans ton ventre, et ce tapis.
Alors, c'est un tapis, c'est un grand tapis.
C'est un tapis pour dormir. Il est dans les rouges, avec des dessins géométriques, il est très épais, il est même aussi joli sur l'envers que sur l'endroit.
Cela s'imposait que pour parler de toi et de l'Algérie, avec tous ceux qui nous rejoindront pour évoquer leur histoire, c'était important de se retrouver au cœur de ta maison, rive gauche à Paris, sur le tapis du salon. Replanter la tente. Oui, c'est bien ça. Je ne sais même pas à quoi tu ressemblais là-bas. Si tu portais déjà ces affreuses lunettes papillons, si tu avais les cheveux longs ou courts, je ne sais rien de toi, ni de ceux qui t'entouraient, ni de mon père. Je ne peux que t'imaginer. Ma mère, pied rouge en Algérie. Pied rouge? Mais qui étiez-vous? On a, semble-t-il, rangé sous ce qualificatif polémique et peu flatteur tous ceux qui, au lendemain de la guerre, ont choisi de se mettre au service de l'Algérie indépendante. Français, espagnols, italiens, humanistes, chrétiens ou communistes, vous y avez cru à cette cause. Vous êtes partis donner sans compter vos mains, vos saisons, vos savoir-faire.
C'est quoi pour toi le terme pied rouge?
J'ignorais le terme jusqu'à ce qu'on me l'ait appliqué quand j'étais en Algérie. Je me circulais quand même sur les routes, j'avais ma voiture, donc je prenais beaucoup de gens en stop. Et on parlait, bien sûr. D'abord, il s'étonnait qu'une voiture pilotée par une Française s'arrête pour prendre un autostoppeur algérien. Ça commençait toujours de la même façon, la conversation. Ensuite, j'expliquais que j'étais venue mettre ma technique au service de l'Algérie indépendante, puisque Après tous les dégâts que la France avait commis dans le pays, il me paraissait justifié de leur donner un petit coup de main au départ. J'y suis allé trois fois en Algérie. Une fois donc avec sous le gouvernement provisoire pendant un mois, une autre fois pour former les techniciens sanitaires en 63, et puis ensuite j'y ai travaillé comme coopérant technique pendant 2 ans. Donc j'étais venu en tant que médecin et je travaillais d'abord 1 an à l'hôpital de Batna dans les Aurès et ensuite 1 an à l'hôpital de Constantine. J'avais ouvert une PMI ou quelque chose d'approchant dans un faubourg déshérité de la ville. Je travaillais également dans une école de techniciens sanitaires à Paterno, ça se passait, en Kabylie. Il y avait à l'époque, c'était en 1963, donc 1 an après l'indépendance, il n'y avait pratiquement pas de, très peu de médecins algériens, puisque la France avait refusé de former des médecins indigènes pendant très longtemps. Il y en avait donc très peu, et ils étaient dans les villes, et dans les campagnes, il n'y avait rien. Et ces techniciens sanitaires, nous devions leur apprendre un peu d'hygiène, bien sûr, et éventuellement à être capables de trier les vraies urgences, et puis de donner des petits traitements simples pour des petites pathologies.
Alors tu m'avais dit aussi, je ne sais pas si tu le penses toujours, à l'époque je t'avais quand même posé la question, et tu m'avais dit que tu ne voulais pas devenir colon à la place des colons.
C'est vrai.
Tu ne voulais pas...
De même que j'avais pas voulu devenir conseiller politique, le véritable pied rouge, donc m'immiscer dans la politique algérienne, parce que je trouvais qu'on s'était suffisamment immiscé dans la vie de ce pays-là, et qu'il fallait les laisser se démerder dans tout ce qui concernait le pouvoir, et je ne voulais absolument pas avoir aucune espèce de pouvoir. Bon, bien entendu, c'est faux, parce que c'est pas neutre une technique sur le plan du pouvoir, mais bon, j'apportais une technique, et je ne voulais apporter qu'une technique.
Alors moi, j'ai encore dans les oreilles le chant des femmes des Aurès. T'as vu un disque d'une femme qui chantait a cappella, magnifique. C'est un disque en vinyle avec une femme sur la pochette.
C'était un disque. Je pense que c'est de ce disque-là que tu parles. Tao Samouche, Kabyle. Oui, les femmes chantaient, bien sûr. Souvent, on les voyait pas, d'ailleurs. On entendait le chant, mais on les voyait pas. استظرا الصفري
وذلتنا يا نار. Alors il y a une question quand même que je me pose là, c'est en fait c'est la rencontre avec papa. Tu l'as rencontré à quel moment?
La deuxième année, quand j'étais à Constantine, je ne sais plus très bien à quelle occasion. Sincèrement, j'ai tout à fait oublié comment je l'ai rencontré. Mais on a sympathisé très vite d'ailleurs, en tout cas.
Il faisait quoi là-bas?
Il était coopérant technique dans l'enseignement, donc il était prof à Guelma, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres de Constantine.
Il ressemblait à quoi, papa, en fait, à cette époque?
Un étudiant binoclard.
Ma mère et mon père, la militante et le poète. Une rencontre du troisième type qui n'aura pas résisté au retour. Mon père et ma mère, improbable rencontre sur fond d'indépendance. Dans le chaos d'une avalanche, deux pierres s'épousant au bon, pur s'aimait nu dans l'espace. L'eau du torrent qui les engloutit s'étonna de cette écume ardente. Ma mère et mon père, la militante et le poète.
Bonjour. Bonjour.
Paul Auriol et Anne Couteau.
Paul Auriol.
Des amis de ma mère, Constantine.
Pardon.
On s'installe sur le tapis.
C'est un tapis de nomade.
On a et le puis... même à la maison. Hein.
Même couleur, même, même forme.
Oui, exactement le même.
Indiscutablement.
Alors moi, j'avais une chose à dire sur ce tapis. Il m'est, moi aussi, très familier, puisque avec Paul, quand on était gamin, mon frère et moi, on se livrait à des combats de lutte gréco-romaine. C'était le rituel quand Paul venait manger à la maison, et avec Anne. On commençait toujours à l'apéritif par un petit combat de lutte. Est-ce que tu t'en souviens, Paul ?
Non, mais ça ne m'étonne pas, je suis un combattant.
Auriol et Anne. Inséparables, c'est ainsi qu'on les nomme. Paul était médecin épidémiologiste à Constantine, puis avait travaillé dans un dispensaire dans le quartier d'El-Arak, à Alger. Anne enseignait le français et racontait très bien les histoires. Ils étaient restés plusieurs années sur le sol algérien, et de retour en France, ils avaient atterri chez ma mère, le temps de se rassembler les esprits et de trouver un appartement. Avec le tapis du salon, ils font bel et bien pour moi partie des meubles.
Alors, comment vous avez travaillé ensemble, maman et toi ? Sur quel...
Sur les programmes de l'école, puisqu'on était à l'école paramédicale de Constantine, tous les deux. Et puis aussi, j'avais besoin d'aide pour traiter le paludisme à Batna, par exemple, enfin...
Et c'est, je crois que notre expérience la plus intéressante, c'est justement l'école paramédicale, où on a essayé de créer, et ce n'est pas une idée en moi, donc je suis généreux sur l'idée, on a essayé de créer un type de travail qui n'existait pas en France, de façon caricaturale, c'était les infirmiers au pied nu. C'est comme on a parlé après des médecins au pied nu
de Chine. Rurales.
C'était qu'on voulait former des accoucheuses rurales, des infirmiers ruraux, des aides-soignants ruraux. Pour prendre l'exemple idyllique de l'aide-soignant tel que nous on le voyait, c'était quelqu'un qui était en première ligne, qui connaissait 50 médicaments, qui connaissait 3 signes par maladie qui lui faisaient voir si c'était grave ou si c'était pas grave, qui traitait la diarrhée banale, et qui, quand il pensait que c'était quelque chose de grave, l'envoyait au médecin ou à l'hôpital.
Il était capable de s'apercevoir que c'était le choléra.
Voilà, c'était ça le problème. Ou l'accoucheuse rurale qui savait faire les accouchements normaux, et qui donc accouchait toutes les bonnes femmes qui en avaient besoin, et qui, quand voyait qu'il y avait le signe ou les signes qui mettaient en danger la vie de le gosse ou de l'enfant, faisait appel tout de suite à quelqu'un d'autre, mais qui débarrassait les médecins de tous ceux qui fait la clientèle, 80% des clients du médecin, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin de médecin, et qui réservaient le médecin qui était rare à ceux et celles qui avaient besoin de médecin. Et ça, c'était pour moi, c'est quelque chose de phénoménal, qui a complètement échoué, parce que l'image de la santé qu'avaient les Algériens, c'était la santé en France, traitée comme en France, avec les valeurs de la France, etc. Et les accoucheuses rurales, on les a mises où ? Dans les hôpitaux. Alors qu'elles étaient faites pour être envoyées en rase campagne, mais il y avait une telle pénurie.
Maman, on est de nouveau réunis dans ton salon, sur ce fameux tapis que tu as ramené d'Algérie. Et aujourd'hui, je voulais te présenter Pierre Avomeyer, qui est peut-être le seul vrai pied rouge, avec tous les guillemets qui s'imposent, de cette histoire, en tout cas de ce documentaire. Alors voilà, Pierre Avomeyer, Marie-Claude Zalamansky.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je ne sais pas si vous êtes croisés ou non en Algérie, mais finalement c'était peu probable.
Pas à notre souvenir, parce que croiser, c'est pas impossible. Parce que,
ah oui, tout à fait.
Parce que moi j'étais de 62 à 65. Mais j'ai guère bougé d'Alger.
Vous faisiez quoi à Alger ?
Je travaillais dans la presse.
Pierre Abomeyer, vous m'aviez appris que les torturés torturent.
J'ai été employé comme documentaliste et correcteur au journal officiel El Mujahid, l'organe central du bureau politique du FLN. Et donc, nous étions déjà mobilisés en France pendant la guerre d'Algérie dans l'aide au FLN, ce qu'on a appelé effectivement les porteurs de valises. Donc, tout naturellement, il nous a semblé nécessaire d'aller aider l'Algérie nouvelle qui devait se reconstruire. Et c'est pour ça qu'on a été sollicité d'ailleurs par des cadres du FLN que nous avions connus pendant la guerre et qui nous ont invités à aller partager avec eux cette expérience de l'Algérie nouvelle.
Alors vous êtes toujours trotskiste de la 4e internationale, c'est quand même important à souligner.
Oui, j'étais trotskiste, membre de la 4e internationale, et je suis d'ailleurs toujours.
Oui, alors j'étais une étudiante de bonne famille, j'ai mis pas mal de temps, malgré mon envie de porter des valises, à trouver des gens qui soient branchés sur les valises. Quand j'en ai trouvé, c'était la fin de la guerre, donc en réalité j'ai fait, je crois, une mission test et jamais porté de réelles valises.
Alors, c'est quand tu as dit j'ai contacté le FLN, ça s'est passé comment ? À Paris, tu l'as contacté ?
Oui, à Paris, puisque de toute façon, on était en lien avec le FLN depuis l'histoire du gouvernement provisoire.
Mais c'est qui ce « on » ?
C'était, disons, une trentaine d'étudiants en médecine, en fin d'études de médecine, et peut-être même un peu plus. Nous avions, depuis l'indépendance, travaillé d'abord à former des aides-soignants ruraux. C'est l'été d'après qu'on avait passé par vagues successives 3 mois à former ces aides-soignants ruraux. Ensuite, on avait travaillé, toujours à Paris, à faire un nouveau programme d'études médicales et à faire des programmes pour l'école paramédicale qui devait former les techniciens sanitaires. Donc, c'était un travail suivi, si tu veux. J'étais pas seule là-dedans. J'étais seule à partir. Mais j'étais pas seule à travailler sur les programmes, loin de là.
Dans les réseaux d'aide au FLN, il y avait en général des gens qu'on qualifie de progressistes, c'est-à-dire des gens de gauche en général, des militants communistes. Le PC était pour la paix en Algérie, mais ne défendait pas le mot d'ordre de l'indépendance de l'Algérie. Donc en général, c'était des militants communistes qui étaient en désaccord avec la ligne de leur parti.
Comme ma mère.
Des trotskistes. Et de chrétiens progressistes, de catholiques de gauche, qui étaient assez nombreux dans les réseaux d'aide au FLN, dans les porteurs de valises. Et puis des humanistes, simplement, qui désiraient aider un peuple dans son effort de relèvement après l'occupation coloniale.
Moi, qui suis allé, parce qu'il faut dire que pendant toutes mes études, on commençait la discussion en disant « il fait beau aujourd'hui », on achevait pour ou contre la guerre d'Algérie. Donc moi, mon débouché normal à la fin de mes études, c'était aller en Algérie. Rien d'autre m'intéressait que d'aller en Algérie.
Et oui. Ton rapport avec le PSU à l'époque, il était déjà ou
pas? Moi, j'étais au PSU depuis 15 jours avant sa création. c'est-à-dire, j'étais dans les deux petits partis qui ont donné naissance, ou trois petits partis qui ont donné naissance au PSU. Et le PSU, c'était le parti de la paix en Algérie, de la paix avec l'Algérie, avec la nuance que ça suppose. On était engagé là-dedans depuis le début, quoi. Sans avoir jamais fait, moi, d'aide au FLN ou d'être engagé à ce point-là.
Pendant la guerre, quoi.
Oui. Moi, j'étais pour la paix à l'Algérie, mais je n'ai jamais été dans les réseaux d'aide au FLN. Et Anne, c'est le stade d'après, parce qu'elle était plus jeune, etc., qui est venue pour me rejoindre. Donc, c'est trois stades différents. Elle, c'est la pied rouge pour moi. Moi, c'est le pied vert et Anne, c'est pied vert rapporté.
T'es partie avec des camarades ou des copines ou t'étais vraiment, tu t'es embarquée toute seule ?
Toute seule. Je suis partie en voiture, donc oui. C'est pas vraiment la porte à côté. Donc j'ai traversé la France, j'ai pris le bateau avec ma voiture. et j'ai débarqué avec ma voiture à Oran. Et donc ensuite, j'ai traversé l'Algérie depuis Oran jusqu'à Batna, en passant par Alger, puisque je voulais l'adresse. Le voyage lui-même, les gens serviables si la voiture était en panne pour aider, parce qu'il y avait beaucoup de... Les routes n'étaient pas excellentes quand même. Donc on pouvait crever assez souvent, et j'ai jamais eu l'ombre d'un problème pour être aidé à changer ma roue. J'étais effectivement relativement ému quand même. Et c'est là que j'ai appris que la dénomination qui me revenait devait être Pied Rouge. Je ne la connaissais pas avant. Ça m'a amusé parce que, bon, bien sûr, Pied Noir, tout le monde connaissait, mais Pied Rouge, je n'avais jamais entendu. J'ai trouvé que c'était drôle, c'est tout.
Et comment ça se passait avec les Algériens? Vous aviez quel type de relation? Et vous voyez arriver comment?
En Algérie même, on a tous été surpris par un accueil vraiment chaleureux, c'est-à-dire de la part de la population, qui ne savait pas quel était exactement notre rôle, mais qu'on croisait soit dans notre travail, soit dans la vie de tous les jours. Qui nous étonnait un peu parce qu'on s'attendait un peu à des manifestations de ressentiment vis-à-vis des pieds noirs. Mais les gens savaient faire la distinction, c'est-à-dire on était très chaleureusement accueillis. Les rapports
beaucoup plus chaleureusement, bien. J'ajouterais, que les gens d'autres nationalités.
Oui, ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui.
En tant que Français, vous aviez...
Voilà, on avait un ticket de plus. Faut être juste.
Mais c'est vrai ce que vous dites, il n'y a pas que les Français, c'est-à-dire des pieds, ce qu'on appelait les pieds rouges, qui sont venus en Algérie. Il y a beaucoup d'aides, surtout des pays de l'Est.
La Chine aussi.
La Chine, oui.
C'était un peu la tour de Babel, Alger, à cette époque.
Ah, tout à fait, tout à fait. L'atmosphère Alger 63-64, c'est l'atmosphère, par exemple, à Havane, après la révolution cubaine. C'est-à-dire une liesse, un enthousiasme, une chaude ambiance, des manifestations, les accueils de délégations étrangères reçues avec faste, etc. Beaucoup de démonstrations. Et puis vraiment un enthousiasme de la population, c'est-à-dire l'impression d'une vie nouvelle, d'un commencement de quelque chose de nouveau qu'on construit, qui est à soi-même, etc. Alger surtout, évidemment, concentre les visites de délégations des différents mouvements de libération africains, les Africains du Sud, le Mozambique, l'Angola, la Guinée portugaise, qui sont à ce moment-là en train d'initier ou de continuer une lutte armée la plupart du temps contre leurs anciens colonisateurs. Et Alger sert de plateforme, de point de rencontre de tous ces gens-là. Donc c'est un défilé continuel. C'était ça l'atmosphère d'Alger à cette époque-là.
L'atmosphère de la province était beaucoup moins dans les festivités de réception des délégations, bien entendu, elles n'arrivaient pas jusqu'à nous. Mais la population locale manifestait un enthousiasme, une envie que tout change, que tout se mette en place. Bon, dans les douars, une personne qui savait lire et écrire se mettait à alphabétiser les enfants d'un village sans avoir jamais eu aucune formation pédagogique, bien sûr. Mais on construisait une école, les villageois construisaient de leurs mains une école. On voyait des choses comme ça.
Oui,
c'était très enthousiasmant.
Tarsé et Ajmeyen, C'était une période extraordinaire.
Jean-Robert Henry, enseignant à la faculté de droit à Alger durant 10 ans. Un fondu des relations franco-algériennes, dit de lui Paul Auriol.
Dans ce monde qui se renversait, qui se retournait, qui était en plein changement, très vite je me suis intéressé à l'histoire, à ce monde qui disparaissait sous mes yeux encore, à cet autre monde qui émergeait, à la société. Je me suis baladé, comme faisaient d'ailleurs beaucoup de gens à l'époque, dans tous les coins d'Algérie, particulièrement au Sahara. Là, en Algérie, il y avait quelque chose de surprenant. C'est qu'à cette époque du début de la coopération, et après l'année qui avait vu le départ des Européens et tout un assez grand nombre de drames contre les Harkis, par exemple, tout ça avait disparu quand je suis arrivé, et c'était un pays extraordinairement hospitalier et qui attendait énormément de cette France. Je crois que les Algériens s'étaient fait contre la France, mais comme disait Sacha Guitry, tout contre. C'est-à-dire qu'il y avait une telle proximité, un tel aspect fusionnaire, qu'après avoir fait sécession, la société algérienne ne demandait pas mieux que d'inventer un nouveau rapport avec la France.
Et ça se passait comment pour toi là-bas ? Vous voyez comment les Algériens ?
Parfaitement bien, ils distinguaient parfaitement notre comportement et le comportement pied-noir usuel, disons. Ça n'a jamais, jamais posé pour moi la moindre difficulté. Ou bien j'étais ignorée dans les petits bleds, ça arrivait. Si vraiment je voulais prendre un pot dans un petit bled, il se faisait un espèce de vide sanitaire autour de moi. On me servait très poliment, mais personne ne m'approchait. Je pense qu'il n'était pas correct non plus d'approcher une femme dans les campagnes, disons. Bon, je suis rentrée dans des maisons, mais j'avais un statut très hybride, parce que par ma profession, de toute évidence, j'étais un homme. Donc, j'étais souvent mise du côté des hommes, automatiquement. Et j'apercevais les femmes dans les ouvertures des portes, derrière un rideau. Alors, je pouvais y aller, bien sûr, puisque quand même, j'étais une femme. Donc, si je me déplaçais, je pouvais aller parler avec elles.
Mais déjeunais, tu dînais avec les hommes.
Avec les hommes.
Alors, en fait, il y avait des tas de questions que je continuais à me poser et qui restaient un peu énigmatiques. Par exemple, c'était comment, Batna ? Ta maison à Batna ?
Ma maison à Batna, c'était un petit immeuble. Et j'avais un studio qui donnait sur le toit. C'était formidable parce que quand il faisait très chaud, j'allais dormir sur le toit. Chez moi, j'avais acquis une caisse de sardines, une caisse de biscottes, une caisse d'oranges et de la purée de pommes de terre en sachet et des boîtes de concentré de tomates. Avec ça, je réalisais un festin que je mangeais en 10 minutes, et ça me permettait d'utiliser mon temps autrement. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu voyais de ta fenêtre ?
Oh, c'était magnifique. Je voyais la ville, et au-delà, les montagnes. Ça, alors, formidable, la vue. Il y avait un grand marché auquel j'ai réussi à aller de temps en temps, parce que ça, j'adorais. Et je mangeais une assiette de soupe au pois chiche. Sur le pouce, dans le marché. J'adorais ça. En dehors de ça, y avait des rues, bien sûr, plantées d'arbres. Dans le quartier ex-européen, sûrement, et puis des quantités de rues moins glorieuses, avec des maisons plutôt basses. Je me suis sentie très vite chez moi. Au bout de 3 mois, je disais chez moi, en pensant tout à fait sincèrement aux Aurès et à Batna.
Et tu préférais Batna ou Constantine ?
Oh, Constantine, c'est une ville tellement magnifique, avec les gorges du Rumel. C'est une ville splendide, Constantine. C'était plus grand, j'habitais un bien vacant, un appartement aussi d'une pièce dans la ville ex-européenne. Et je travaillais dans un faubourg qui était de l'autre côté de la ville musulmane.
À Alger, c'est décidé. Depuis le 22 mars, toutes les entreprises à caractère industriel, commercial, artisanal, financier et minier, toutes les exploitations agricoles et sylvicoles, tous les locaux, immeubles ou portions d'immeubles qui, à cette date, ont fait l'objet d'une constatation de vacances, vont une fois pour toutes et définitivement être propriété des travailleurs algériens. C'est M. Ben Bella qui a annoncé lui-même cette décision hier soir à la radio-télévision algérienne.
La première tâche a été de recenser les biens vacants. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'est apparue l'idée de la gestion autogérée, c'est-à-dire de l'autogestion.
Depuis 48 heures, cette actualité qui touche à la fois le domaine international et la politique française s'est portée sur l'Algérie. Pourquoi ? Eh bien parce que là-bas, le gouvernement Ben Bella a pris une série de décrets mettant sous contrôle de comités de gestion de grandes propriétés appartenant à des Français.
Et l'autogestion, c'était une idée phare. Toutes ces années, 63, 64, 65, jusqu'au coup d'État de Boumédienne, de donner les biens vacants, c'est-à-dire les entreprises, soit industrielles, soit agricoles, à leurs travailleurs, en leur demandant de constituer un comité de gestion pour gérer les entreprises.
Les gens avaient occupé une grande partie des locaux, des immeubles, des pieds-noirs qui étaient partis, mais tous les pieds-noirs n'étaient pas partis. On était reçus dans des fermes en autogestion, on passait la nuit. Enfin, il y avait d'ailleurs une façon de voyager que j'ai pratiquée avec d'autres amis. On demandait l'hospitalité dans une école, dans une ferme, les gens vous accueillaient, passaient la moitié de la nuit à discuter avec vous sur l'avenir de l'Algérie, etc. Et Alger même, on faisait l'alphabétisation, il y avait des choses très touchantes, c'est-à-dire les gens étaient persuadés qu'il y allait y avoir, que par exemple, faire de l'alphabétisation, apprendre à lire, à écrire, ça allait transformer le pays, les transformer eux-mêmes. Il y avait une croyance en l'avenir, dans une espèce de progrès, fait en coopération avec la France, qui était tout à fait surprenant.
Voilà des manifestations algériennes, c'est-à-dire, ça c'est une conférence, meeting des responsables des comités de gestion de l'Algérois, c'est-à-dire les gens qui participaient à l'autogestion. Voilà, c'est dans une grande salle à Alger. Moi, je suis là.
Avec le point levé.
Le point levé. Là, il y a un Australien. Là, il y a un Péruvien.
Et du côté algérien, on en pensait quoi des pieds rouges ? C'est la curiosité, Mohamed Harbi, qui m'a poussé à traverser la frontière jusqu'à votre appartement parisien. Je compose le code de votre appartement, 1963. Coïncidence troublante. Le hasard, m'avez-vous répondu. Le hasard. Membre de la Fédération de France du FLN, vous devenez en 1963 conseiller de Ben Bella et avec le trotskiste Michel Raptis dit Pablo, vous êtes aux premières loges de la politique d'autogestion des domaines laissés vacants par les pieds noirs.
Comment ça se passait concrètement avec les Français, avec Pablo ? Comment vous les voyez arriver, ces pieds rouges ?
Je crois qu'on a beaucoup exagéré le rôle, si vous voulez, qu'ils ont joué. Ils n'avaient pas de tâches de gestion, d'une manière générale. Ils étaient soit dans le secteur de l'information, soit dans les agences d'aide non gouvernementale. Beaucoup d'entre eux ne pensaient pas s'ingérer dans des affaires intérieures. Ce concept d'ingérence dans les affaires intérieures n'était pas dans leur tête. Hein, ils étaient dans un projet internationaliste et donc l'idée d'ingérence leur était étrangère. Par contre, Raptis a eu pendant une période l'oreille de Bembella. Il n'était pas seul conseiller, il y avait Bourges, hein, qui était conseiller de Bembella. Disons que Bembella était de ce côté-là au départ, était assez ouvert. Après, quand il a commencé à subir des pressions de tous les côtés, il s'est délesté de Raptis et des autres, des conseillers étrangers. Oui. C'est le mot. لأن في الأفلاك من مراثيها بوارق تزعزع السماء على جباههم بدا بعد العذاب نور. On ne s'amuse pas avec des choses aussi importantes que des idées comme l'autogestion, le socialisme, etc. Parce que il y avait en Algérie, le nationalisme était la culture dominante. C'était déjà une entrave à, disons, un projet socialiste. En second lieu, il y avait la question religieuse. Et une bonne partie des internationalistes ne voyaient pas que cette question intervenaient dans le rapport qu'ils avaient avec les Algériens, même si leurs interlocuteurs ne le disaient pas expressément. Et Bembella était indécis quant au projet lui-même. Hein. Et donc, il y avait des valses hésitations. Et cette valse hésitation se matérialiser essentiellement dans le fait qu'il a donné la gestion de l'empire autogestionnaire à soit des étatistes, soit des gens qui auraient préféré, mais sans le dire, hein, une gestion privée, une vente de ses biens, etc. Et les socialistes en général, on les a laissés dans la vie propre, dans l'agitation, dans l'expression à travers les journaux. Il y avait un déphasage entre les deux extraordinaire. Et donc, au fur et à mesure que le temps passait, les gens qui étaient soit pour l'étatisation, soit pour la privatisation, hein, devenaient de plus en plus arrogants. Et à partir du moment où Bembella a commencé à toucher à un certain nombre de leurs porte-parole, ils se sont sentis en danger, ils ont réagi.
Et c'est le coup d'État.
Un coup d'État, un coup de théâtre aussi. Et ce matin, voici ce que l'on entendait sur 306 mètres en moyenne.
Ça, alors là, ça a été... J'étais à Constantine à ce moment-là, un changement radical d'atmosphère.
Algériennes, Algériens, officiers, sous-officiers et junoudes, militants du parti et des organisations nationales, fonctionnaires de l'État, responsables des corps de sécurité, tous à l'écoute, une déclaration importante sera faite dans quelques instants.
306 mètres ondes moyennes, c'est Radio Alger en langue française. Et la nouvelle est venue, c'est celle-ci, Bembella est renversé. Renversé par l'ANP, le colonel Boumediene, appuyé par le ministre des Affaires étrangères, M. Hamed Bouteflika.
Jusqu'alors, je savais que ça ne se passait pas très bien, puisqu'il y avait une contestation armée. En particulier, il y avait un maquis en petite Kabylie contre Bembella. Mais malgré tout, on avait l'impression que le dialogue... tout était encore possible, on avait l'impression. À partir du moment du coup d'État de Boumediene, on a eu l'impression, effectivement, que l'armée était au pouvoir. Ça a donné cette impression. Il n'y avait plus de manifestations spontanées, les gens sortaient bien encadrés dans des voitures, il y avait des flics sur les toits.
L'état policier, quoi.
Voilà, on a tout de suite eu l'impression que... C'était très différent.
Un conseil de la révolution a été créé.
Nous qui vivions à Alger, effectivement, on se réveille un jour avec les chars devant la grande poste et on apprend que Ben Bella a été arrêté dans la nuit.
Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale.
D'abord, il y a des gens qui ont disparu parce qu'il y a eu énormément d'arrestations. De nombreux cadres algériens étaient arrêtés immédiatement les premiers jours. Et on a vécu comme ça pendant des semaines.
Il va de soi que les options fondamentales sont irréversibles et les acquis de la révolution inaliénables pour le Conseil de la Révolution. Où allez-vous me dire ?
Et pour toi, concrètement, ça s'est passé comment ?
Pour moi,
t'as été inquiété ou
pas ? Pas du tout. Je voulais même, à ce moment-là, j'avais besoin de matériel. Je quémandais des tables, des chaises, des tableaux.
À l'armée, directement ?
On m'a envoyé en quémandé à l'armée, qui m'en a donné sans problème, comme toute autre administration l'avait fait, disons.
Et après, je suis passé à l'opposition et j'ai été arrêté très vite, donc... Et j'ai fait des années de prison et de résidence surveillée. 7 entre les deux. Voilà.
Sinzawan et Harbi ont été arrêtés après nous, torturés, etc. Et puis Ben Bella, on a fini par le relâcher. Et Harbi, on a réussi à l'exfiltrer, à le faire sortir d'Algérie. C'est même moi qui ai fait ces papiers. Et nous avons... fini par être expulsé au bout de un peu plus de 3 semaines. Et donc je ne suis pas retourné en Algérie depuis parce que on a été expulsé avec le motif de personnes indésirables en Algérie.
Dur.
Oui.
Une fois Boumediene au pouvoir, les techniciens sanitaires ont été supprimés et on a repris les études classiques à la française. Donc finalement, nos techniciens sanitaires sont restés techniciens sanitaires. Je ne sais pas bien ce qu'ils sont devenus par la suite.
D'accord. Donc ce qui t'a décidé à partir, c'est que tu avais fini ta mission ou pas seulement ?
Si, j'avais fini ma mission en tant que formateur de technicien sanitaire. Et le tournant de Boumediene m'avait refroidi. J'avais l'impression que ce serait de moins en moins l'Algérie que je souhaitais qui allait se mettre en route. Et j'avais... tout à fait terminé mes études, il fallait que je prenne une décision d'avenir et j'ai plutôt décidé de rentrer en France. Je suis rentrée avec le tapis, une table basse, des coussins, des couvertures, c'est à peu près tout. Hein. Les gros bagages, on les avait laissés.
Donc toi, quand tu es rentrée à Paris, est-ce que tu peux remonter dans tes souvenirs ? Est-ce que tu étais enceinte de moi déjà ou c'est arrivé après ? Parce que là, il y a deux histoires familiales qui se croisent.
Je devais être enceinte de toi ou c'était pas loin du tout, en tout cas.
Papa est formel, lui. Il dit que tu es rentrée enceinte de moi et que j'ai été conçue sur le sol algérien. Lui, il est assez formel.
C'est bien possible.
Jean-Robert Henry, je ne compte plus les heures que nous avons passées au téléphone, moi à Paris, vous à Aix-en-Provence, à reparler de ce temps-là. Nous avons fini par nous retrouver à Marseille. Le soir, je chantais pour les pieds noirs. L'après-midi, nous reparlions des pieds rouges. L'Algérie et la France, destin et imaginaire croisés. S'il y a quelqu'un aujourd'hui susceptible de repenser la Méditerranée des deux rives, c'est bien vous.
dans les années 60, je me plaisais tellement en Algérie que j'ai même songé à prendre la nationalité.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
Bon, parce qu'au fur et à mesure des années, je me rendais compte finalement que ce n'était pas quelque chose de réaliste, qu'il y avait des différences qui s'affirmaient. C'était... Bon, le régime n'était pas très, très ragoûtant toujours. C'était un régime un peu policier. Très... Mais,
après, ce que vous voulez dire, après le coup d'État de Boumediene ?
Oui, même avant. Hein, Ben Bella savait bien pratiquer les mesures policières aussi. Ce n'était pas un ange de ce côté-là. En même temps, il avait un côté très convivial. Je me souviens qu'il était venu passer une soirée avec nous dans un rassemblement de jeunes. Et bon, on se tapait presque sur le ventre. Il dédicaçait ses livres de discours fraternellement à Ahmed Ben Bella. Il y avait tout un côté sympa, mais enfin, en même temps, on ne peut pas dire que c'était une démocratie, même pas sous Ben Bella. Hein.
C'est-à-dire, pour moi et pour un certain nombre de mes camarades, ça a été une expérience assez extraordinaire. Bien sûr, on ne peut être que déçu du cours des événements, de ce qui est devenu ce pays, de ce qui s'est passé depuis. On a l'impression qu'il y a là une expérience, des opportunités qui ont été gâchées. Les tendances contraires ont fait que tout un courant du personnel politique algérien ont poussé à l'arabisation du pays. On trouvait tout à fait normal que les Algériens récupèrent leur langue d'origine, l'étudie, etc. Mais l'arabisation a été faite avec des cadres importés de l'Égypte, Arabie Saoudite, Yémen, etc. Et c'est le parti de Boumediene qui s'est appuyé sur tout ce courant. Et on a là un développement de l'Algérie, après le coup d'État de Boumediene, vers une glaciation, on appelle ça une glaciation, et puis une création de tout un courant comment islamiste, dont l'Algérie payera le prix des années après avec l'irruption du terrorisme islamiste, etc.
Mais déjà, le retour n'était pas facile. Je sais que la dernière année, celle durant laquelle je me suis décidé à partir, j'ai vraiment une phase dépressive. Bon, j'ai beaucoup été aidé par un ami algérien, un psychiatre, qui préférait me faire une épaule d'agneau que me donner des médicaments. Et l'horreur un peu, c'est que lui-même est mort pendant la décennie noire, dans les années 90. Il s'est suicidé pratiquement, notamment en se laissant mourir de faim, enfin un peu par anorexie. Désespéré d'un peu tout et ça c'est quelque chose plusieurs cas autour de moi du côté algérien, du côté français aussi, mais les Français avaient l'espoir de pouvoir leur régler leurs problèmes une fois en France. Pour les Algériens souvent c'était un enfermement, et bien avant la décennie 90 même, on voyait des gens qui devenaient dépressifs, qui s'angoissaient terriblement parmi les copains algériens ou les copines algériennes les plus proches. Et trois autour de moi sont suicidés, ce qui est quand même pas du tout habituel. La rentrée a été difficile. J'ai cherché une aide d'ordre psychologique. Je savais que la psychanalyse était peut-être une façon de dépasser ce moment-là. Et c'est d'ailleurs un des rares moments où j'ai rencontré votre mère, puisque j'avais dû la croiser dans des repas par nos amis communs. Mais là, je me souviens que par ses amis communs, j'ai
les
dit...
Les amis, c'est Paul.
Paul Auriol et Anne Couteau. Et je me suis retrouvé dans l'appart de vos parents.
Et aujourd'hui, que reste-t-il ? Ce tapis sur lequel je m'allonge, où je réfléchis. Pour Mireille Dérez, Paul Auriol et Anne Couteau, il reste un soutien indéfectible aux immigrés. Le droit de vote, le droit d'asile, le droit tout court. Pierre Avomeyer, indésirable sur le sol algérien. Toujours en contact avec Pablo, vous avez continué à porter des valises, cette fois pour les réfugiés grecs hostiles au régime des colonels. Puis à Paris, vous avez repris vos activités de correcteur d'imprimerie et la lutte syndicale. À ce jour, vous êtes toujours membre de la 4e internationale. Jean-Robert Henry, après toutes ces années sur le sol algérien, vous avez fait un choix. Habiter Aix-en-Provence, pas très loin de l'Algérie, en copropriété avec des Algériens. Vous vous retrouvez chaque année à Contis. Pierre-Rouge et Algérien, l'Algérie et la France, destin et imaginaire croisés. Quant à toi, maman, aussitôt rentrée, tu as choisi de travailler comme médecin dans le dispensaire de Pantin, bien loin de la clientèle des beaux quartiers où nous avons vécu. Ta carrière, maman, ta carrière. Et puis, tu t'es lancée dans le combat féministe et te voilà, à 70 ans révolus, plus que jamais bénévole au planning familial. Est-ce que tu es revenue en Algérie ?
Je suis juste allée 8 jours, une fois à Alger, mais je rêve de retourner à Batna, je le ferai sûrement.
Et qu'est-ce qui t'a empêché d'y retourner profondément, en fait ?
Y vivre et y travailler comme... non, ça n'est plus possible, bien entendu. Le contexte est devenu extrêmement différent. Mais j'aime le pays,
Bon. Est-ce que c'est pas le fait d'y aller en touriste qui te pose problème, en fait ?
C'est possible aussi. Je peux plus y aller comme j'y étais allée, et quelque part... C'est vrai, je me sens pas à l'aise en touriste, et bon, quand j'aurai été regardée du dehors, ça m'apportera pas grand-chose. Enfin, sauf sans doute la déception de tous ceux qui reviennent en disant « Ah, mais là, il y avait, et puis il n'y a plus !» Donc, bon, je suis très, très ambivalente, disons, sur le fait d'y retourner, c'est vrai. Mais j'ai gardé beaucoup... beaucoup d'amour pour le pays. C'est un pays et des gens extrêmement attachants. Et j'ai bien toujours envie d'y retourner. J'espère que ça se tassera un peu et que je pourrai y retourner.
Ma mère, Pierre-Rouge, en Algérie.
Ah, mais j'ai ramené ça aussi d'Algérie, ce magnifique pot. Et je vous ferai grâce de la gazelle empaillée qu'on m'a mis sur les genoux à l'aéroport. J'ai dû voyager avec jusqu'à Paris. Je l'ai offert à mes parents. Ils ont accepté de la garder un moment. Heureusement, ça se mit, ces choses-là.
En tout cas, ce qui me frappe, effectivement, ici, c'est qu'il n'y a pas tout de petits verratés décorés. Il y a vraiment, à part un plat tagine que tu as ramené du Maroc... un vague plateau suspendu dans le salon, t'as quand même effectivement pas du tout, t'as pas prolongé le décor algérien, on peut pas dire quoi.
C'est vrai, mais d'abord ton père en a pris une partie de ce que j'avais rapporté, et puis j'ai pas fait beaucoup de tourisme, sauf le week-end. Moi je bossais vraiment tout le temps.
Autour du tapis, Marie-Claude Zalamansky-Hurel, Paul Auriol et Anne Couteau, Pierre Avomeyer, Mohamed Arbi et Jean-Robert Henry. Prise de son, Jean-Pierre Pernel et François Rivalan. Documentation INA, Véronique Jolivet. Mixage, Serge Ristich. Un portrait proposé par Claire Zalamansky, réalisé par Christine Robert.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site de l'heure du documentaire. La semaine prochaine, nous nous attacherons à quelques rêveurs en commençant par les passionnés du Félibrige. Avant cela, à 18h, le journal de la rédaction et tout de suite, musique.